voilà, c'était ça le...
Vous les avez revus ensuite, Pink Floyd, à d'autres reprises?
Ben... Oui, oui, en 87, toujours à Versailles, en 87. Parce qu'entre temps, Waters a quitté le Pink Floyd en 81. Je les ai revus en 87 avec Gilmour, le Pink Floyd de nouvelle version, quoi, sans Waters. Parce que Waters faisait Cavalier Fun. Ils sont venus à Versailles. Oui, en 87. Donc si notre histoire, ouais, elle est imbriquée avec celle de Pink Floyd. Mm-hmm. Ouais. Parce que j'avais des petits carnets de Monoprix, des petits carnets à spirale. Et j'écrivais les textes des chansons et j'ai commencé à les traduire en 75-76. J'avais des petits carnets d'écoliers et j'ai commencé à faire des traductions de Pink Floyd avec un dictionnaire anglais-français, un petit dictionnaire de lycéen. Et après, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Et la première chanson que j'ai écrite, ça c'était l'histoire de Charlie Gordon, qui est un roman de science-fiction de... Ça s'appelle Des fleurs pour Elgernon. La première chanson que j'ai écrite à 18 ans, c'était... Voilà, c'était inspiré par la psychiatrie, la science-fiction, et puis ça s'appelait Charlie, en fait, ma première chanson. J'avais 18 ans. Et les hommes de pierre... c'était des chansons inspirées par Syd Barrett, par Pink Floyd, puis un peu comme ça, du bricolage, quoi, de... en français, en anglais. Mm-hmm. C'est totalement underground. Personne ne connaît ces chansons, à part moi, puis un ou deux copains. Personne ne les a jamais entendues.
Votre frère les a entendues.
Même pas. Notre modèle, ouais, c'était Pink Floyd. Mm-hmm. Et avec mes copains de Versailles, les Lemaire et les de La Taillade, tous les dimanches, on allait, parce que les parents étaient psychiatres, ils étaient tolérants, donc on avait le droit de faire de la musique dans le grenier de la maison de Versailles. Tous les dimanches, on y allait avec mon frère. Et ils avaient une guitare électrique, une batterie, une basse, un piano. Et on jouait avec Alain les chansons de Pink Floyd, de Neil Young, des Rolling Stones. Et le groupe est né comme ça. C'est un groupe qui n'avait pas de nom. Mm-hmm.
Parce que vous, à cet âge-là, vous saviez lire et écrire la musique? Vous aviez
pas du tout
de solfège?
Pas du tout. Alain connaissait très bien le folk, le picking, la guitare. Il chantait très très bien en américain, mais moi, j'étais un débutant. Stéphane Lemaire, il avait fait des études de piano classique, donc il avait un background beaucoup plus... C'était le meilleur musicien, en fait. C'était le plus jeune, mais le plus doué. Et on avait tous les cheveux longs, puis des blue jeans, et on allait dans le grenier des Lemaire. On ouvrait le vasistas, on buvait du thé, on mangeait des croissants, comme ça, des gâteaux, et puis on jouait toute l'après-midi. Et donc on faisait les trucs des Rolling Stones, ça, Honky Tonk Woman, les classiques, quoi. Et on faisait aussi des improvisations, parce qu'on avait il y avait Michel Ossegui à la basse, Jean de La Taillade, c'était le batteur, Jean de La Taillade, et Patrick Lemaire, qui était le frère de Stéphane, qui jouait de la flûte traversière et du saxophone. Et on faisait des improvisations un peu dans le style de Genesis ou de Robert Wyatt. C'était l'époque du rock pop progressif, donc on écoutait Soft Machine, Pink Floyd, Genesis, et on était imprégné de tout ça. Et les Lemaire, eux, ils voulaient faire un groupe à la manière de Genesis ou King Crimson. C'était ça notre idéal musical. Alain, lui, c'était plutôt le rock basique, blues, Chuck Berry, Rolling Stone, pur et dur. Donc on n'avait pas du tout la même notion de l'esthétique. Je crois que c'est ça qui fait qu'il a fait le groupe n'a pas marché. Enfin, on s'est dispersé au bout d'un an et demi, quoi. Ça partait dans des directions différentes.
Vous jouiez de quel instrument ?
Moi, je jouais de la guitare. Et on chantait avec Alain. Et puis, quand Alain n'était pas là, avec les autres copains, on faisait des improvisations. Alors, on pouvait jouer pendant une heure. On faisait de la pop expérimentale, quoi. C'était un petit laboratoire dans le grenier de la maison de Stéphane Lemaire. On faisait des improvisations. Le groupe n'avait pas de nom, il a changé plusieurs fois de nom, ça s'appelait Autobus, et puis Perlbock, Misfits, and Paul, enfin on trouvait des noms qui de groupes qui n'existaient pas en fait, qui étaient un groupe fantôme, donc ça changeait tout le temps en fait.
Oui, c'est ce que vous me racontiez hier, quand vous me parliez de ce groupe fantôme, géométrie, dont vous aviez réécrit la légende.
Ouais, c'est un groupe à géométrie variable en réalité.
Vous ne vous êtes jamais produit sur scène, vous restiez en haut chez les
oui,
Lemaire.
Mais c'est un laboratoire musical. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes premières chansons, dans l'idée de créer un groupe pop.
Est-ce qu'après La Verrière, votre frère, il a continué à acheter des disques, après 75, après ces années-là, est-ce qu'il a continué à être aussi passionné par la musique ?
Alain habitait à Châtillon. Et avec Catherine Reinhardt, ils écumaient le Quartier Latin, ils allaient chez Clémentine Musique, et au Quartier Latin, ils ramenaient toujours des 33 tours. C'est comme ça qu'il m'a fait connaître. C'est comme ça qu'il m'a fait connaître les Bellamy Brothers, et puis Jeanne-Marie Sans, et puis Fleetwood Mac. Il était et Supertramp. Donc Alain, c'est un pionnier, il sentait le vent, il sentait les meilleures nouveautés, il avait une intuition extraordinaire, les premiers Supertramp, c'était avec Catherine, donc il ramenait ça dans sa caverne à Châtillon, et les Fleetwood Mac, les premiers Fleetwood Mac, il les a fait écouter en 78-79. Mais oui, il avait aussi des groupes très peu connus, des groupes psychédéliques américains, Pierce Before Swine, on voit les peintures de Jérôme Bosch. Enfin, il connaissait des choses extraordinaires que personne d'autre ne connaissait, quoi. Il ramenait ça à Versailles, on les écoutait religieusement, toujours les disques de mon frère, quoi. Et après, j'en faisais bénéficier mes copains de Versailles, les idées circulaient comme ça, quoi. Et Stéphane Lemaire, lui qui avait une formation classique, il était très branché sur Neil Young. Lui, il a acheté tous les disques de Neil Young, il les connaissait par cœur. C'était notre point de jonction avec Alain. On jouait les morceaux de Neil Young, quoi. On les connaissait tous par cœur. Harvest, on le connaissait par cœur. Black and Blue, on le connaissait par cœur aussi. Tout ça. Mais moi, j'étais pas très bon musicalement. J'étais vraiment un débutant, mais je voulais faire des expériences musicales. Donc, j'ai acheté ma première guitare électrique à 18 ans. C'est une imitation Fender, de pas très bonne qualité, mais enfin, ça permettait de jouer de la guitare électrique, quoi. Et
Et c'était votre père ou votre mère qui avait acheté la guitare ?
Non, c'est moi, avec ma première paye.
Avec votre première paye ?
Oui.
Vous aviez travaillé dans quoi alors ?
J'ai travaillé un mois dans un petit journal de publicité de Versailles.
Comme
Ça, c'était le dans le quartier du Temple, au Monoprix. Il y avait les actualités des disques. Il y avait enfin, il y avait aussi des disquaires d'occasion dans le quartier du Temple. Ça, c'était les années 77, 78, 79. Donc je. Mais le groupe a éclaté en 78. Les hitmakers, enfin, ça n'existait plus. Chacun était parti de son côté. Jean de La Taillade est allé aux États-Unis faire de l'escalade. Il a vécu à Santa Fe avec sa copine. À Santa Fe, il a travaillé dans une fabrique de meubles en Amérique. Non, il y avait plus de batteurs. Patrick Lemaire est allé en Angleterre voir les scientologues. Et donc, il n'y avait plus de flûtistes, saxophones. Bon, puis le groupe s'est délité en quelque sorte.
L'autre, le maire, mais son frère,
Il est
lui.
resté à Versailles, mais avec Michel Ossegui, ils ont continué à travailler ensemble encore jusqu'à présent.
En
Donc
musique.
voilà, donc au bout de 30 ans, le groupe existe encore, mais sous une forme différente. Parce que Stéphane Le Maire enregistre des disques sous son nom, avec. C'est un peu la musique New Age, un petit peu comme Air, ou les musiques de. Expérimentale américaine, quoi, avec beaucoup d'improvisation, de synthétiseurs, de piano extraordinaire. Il crée tout un univers musical un peu étrange. Très.
Ah, c'est jazz quand même.
Moi, je dirais plutôt pop, entre musique contemporaine et pop musique, quoi. Mais c'est instrumental essentiellement, c'est la musique instrumentale. Mais là, on voit toute la richesse d'improvisation de Stéphane Lemaire. Enfin, c'est une immense qualité de pianiste. Incroyable. Il a enregistré trois albums depuis l'an 2000.
Les deux sont restés dans la musique.
Qu'il m'envoie par la poste.
Ouais.
À chaque fois qu'il
Ouais.
enregistre son album, il me l'envoie par la poste. Et entre-temps, nous, on enregistre mes chansons et celles de mon frère. Donc le groupe existe encore, partiellement, avec Stéphane et moi, en duo. Comme quand il y avait Crosby et Nash. Non, pour l'instant, c'est Stéphane et Frédéric. Donc le dernier album qu'on a fait à Noël, c'est Stéphane et Frédéric. C'est celui qui est là. Que j'ai passé sur la demande. Voilà. Ça, c'est le disque d'Alain. Ça, c'est le mien avec Stéphane Le Maire.
Celui que vous avez enregistré à Versailles.
Voilà, donc les hitmakers existent en trio ou en duo, à géométrie 20 variables. Voilà.
C'est incroyable ça.
Et ce qui est miraculeux, c'est que Stéphane a fait un travail de résurrection, littéralement, des chansons de mon frère, avec des vieilles cassettes pourries que j'avais trouvées dans un tiroir de mon frère. Pendant qu'il était à l'hôpital, il a fait un travail d'orfèvre, c'est-à-dire de ces vieilles cassettes déglinguées avec un son à la guitare, juste la guitare acoustique et la voix de mon frère, parfois pas très bien enregistrée. On a fait un travail d'orfèvrerie, de mise en valeur de chansons. Il a rajouté des arpèges de piano qui sont extraordinaires. De la basse, moi à la guitare, on a réussi à extraire des pépites d'or de ce magma de vieilles chansons auxquelles Alain, lui, ne croyait absolument pas. Comme Syd Barrett, pour Alain, pour lui, ça n'avait aucune valeur. Il pensait que, bon, il avait écrit des chansons une fois dans sa vie, puis il les a laissées. Les cassettes étaient couvertes de poussière, donc il a fallu les remettre en circuit. C'est à quoi je me suis attelé pendant 5 ans, en essayant de comprendre d'abord ce que les chansons signifiaient pour mon frère, pour pouvoir entrer dans son univers musical. Et après, je suis allé voir Stéphane et on les a réorchestrés, on les a remis c'est une réparation esthétique et morale en même temps. Musical, quoi.
C'est vous qui maintenez hein, ce lien. Votre frère, il conserve cette acuité musicale. Vous disiez qu'il avait dilapidé sa collection, que vous étiez attelé à la reconstituer d'une certaine façon, et vous remasterisez, vous retravaillez ces anciens enregistrements. Comment il est toujours assez à l'affût de la musique ou
ah oui, de oui, ces toujours. Enregistrements, votre frère, ouais. Toujours, oui, oui. Oui, il écoute les nouveautés à RTL2, sur les radios périphériques, il écoute toujours, sur la FM, il écoute oui, les nouveautés, oui, Axel Bauer, tout ça, il suit l'actualité. Oui. Dans sa maison de retraite, il a une chaîne IFI, il écoute les Rolling Stones, dans sa maison de retraite, et il écoute la radio, il suit l'actualité, oui. Oui, oui.
Et jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas acheté un disque.
Pour reprendre la question du départ.
Pour reprendre la question, c'était quoi le premier disque que vous aviez acheté? Là, vous nous avez parlé de la collection de votre frère,
les copains.
Comment ça circulait entre les copains, les copies sur les cassettes. Mais vous, comme ça, en essayant d'y repenser, c'est le premier vinyle que vous auriez acheté.
Moi, le 33 tours. Mm-hmm. Le premier 33 tours.
Premier disque. Je sais pas, 33, 45.
Je sais pas, ça c'était les disques de l'époque, quoi. On écoutait ça. Je crois que c'est celui-là, en fait. Mmh. 75, c'est mmh. celui-là, c'est le Pink Floyd. Celui-là, je l'ai acheté en. Voilà, ça c'était le. Oui, en 75.
John Lennon.
Oui.
Les Doors.
Oui, c'est ça.
Pink Floyd.
Ça c'était la compilation de la pochette, génial. On trouvait ça à Parler 2, chez le disquaire de Parler 2. Et à Paris, bon. Je sais plus, au Monoprix ou à la Fnac. Je crois que la première fois que je suis allé à la Fnac, ça devait être en 77. Mm-hmm. La Fnac venait d'ouvrir. Je crois que le premier que j'ai acheté, ça devait être celui-là. Mais bon, un 33 tours à l'époque, ça coûtait 10 francs à peu près, ou 11 francs, ou 11 francs 50. En 77, j'allais au quartier des Halles parce qu'on disait dans Rock et Folk qu'il fallait aller là-bas pour trouver les disques New Wave et tout ça. Donc j'ai acheté Police, le 45 tours avec le téléphone rouge. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté immédiatement. Chez Oldies, je suis allé au quartier des Halles, je l'ai acheté. Je l'ai écouté dans ma cuisine sur le. Tourne de disque. Celui-là, je ne l'ai pas retrouvé. Il est très rare. Je n'ai pas réussi à le retrouver. Ça, c'était en 77. Bon, j'avais la New Wave. J'avais acheté une 5 ou 6 45 tours. Puis après, je les ai revendus. Après, j'écoutais plus que du folk. J'écoutais Gwendal, Malicorne, Planxty.
Ouais.
J'ai une période folk en 78, j'écoutais plus du tout de rock.
Mais vous savez comment ça s'est opéré, ce virage musical, cette bifurcation?
Oui, j'avais un traumatisme très grave parce que j'avais un copain qui prenait des drogues, qui écoutait du rock très, très dur. Donc en 78, j'ai abandonné le rock et j'écoutais que du folk pendant 2 ans. Gwendal, Planxty, Still I Spun. J'avais un copain de Dunkerque qui avait toute la collection de Still I Spun. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, j'ai découvert le folk irlandais, celtique. J'avais un autre copain à la fac de Sancier de Brenton qui s'appelait Philippe Lavis et qui lui m'a emmené au concert de Bossa Nova, Louis Liac, Kate Noveloso, Carlos Jobim. Vinicius de Moraes, donc il m'emmenait du côté du folk brésilien. Mmh. C'était un petit groupe de copains-copines de la fac de Sancier de Brenton. On allait écumer les On allait chez les Pam de Nas et on trouvait des disques portugais, brésiliens. Donc, ma sensibilité s'est un peu élargie. Quoi. Et après, j'étais à des concerts en 82-83. J'ai vu Léo Ferré, Higelin, surtout Jacques Higelin, Safo.
Des grands Safo. Événements.
Oui, grands événements de l'époque. À la Fête de l'Humanité, à l'Olympia, il y avait Safo, Jacques Higelin, Colette Mani, Léo Ferré, et Higelin, surtout Higelin au Cirque d'Hiver, et au Casino de Paris. Donc, grands événements de l'année 82-83. Et après, c'était la fin d'une période. La période New Wave, ça s'est arrêté là, pour moi. Je suis arrivé ici en 83, en juillet 83. Et c'était comme tourner la page, enfin la fin d'une époque. Quoi.
Parce qu'avant d'être ici, dans cet appartement où vous vivez depuis 83, vous étiez où?
Dans le quartier du Temple, dans une toute petite chambre minuscule, mansardée, où j'ai habité pendant 7 ans. Et en arrivant ici, en juillet 83, j'ai commencé une nouvelle vie. Donc j'ai un peu laissé tomber la New Wave, tout ça, bon, les... J'étais très désespéré à l'époque, en 83. Donc, tous les disques de télévision, tout ça, Joy Division, je les ai revendus à cause du copain qui était héroïnomane, donc je ne voulais plus en entendre parler. J'ai commencé une nouvelle vie, donc j'avais mes cartons à dessin, ma peinture, mais je me suis installé ici en 83, juillet 83.
Et donc vous écoutiez moins de musique à partir de 83 ou...
Pendant un an, j'allais dans les soirées de lecture de poésie. J'avais un peu laissé tomber la musique, mais j'écrivais encore des chansons sur les trolls, sur la... J'écrivais des chansons encore, mais j'écoutais plus de rock à ce moment-là. J'ai arrêté, quoi. J'étais allé au bout du bout, du fond de l'enfer, et je voulais plus écouter ça. Quoi. Donc, même les disques des Doors, je les avais revendus à l'époque. Au bouquiniste de l'île Saint-Louis. Quoi. À l'époque, j'ai revendu toute ma collection de rock.
Un peu comme votre frère quand il a dit de lapider sa collection de disques.
C'était une espèce de thérapie, quoi, par le vide. Non, je n'écoutais que Mansay. J'avais découvert Mansay grâce à une copine de la fac, de Sancier. Donc, en 82-83, j'écoutais seulement Gérard Mansay. C'était ma dernière planche de Saluon, en quelque sorte. Et j'écoutais Comme un guerrier, L'enfant qui vole. C'était un univers plus tendre, quoi, plus poétique, moins douloureux, quoi, que le New Wave. Ça m'a un peu sauvé la vie, parce que le premier tableau que j'ai peint en arrivant ici en 83, c'est un grand tableau. On voit Gérard Mansay au bord de la mer, de profil, avec une mouette. C'était une image de liberté, quoi. J'avais enfin un espace à moi, ma chambre à moi, ma chambre en ville. Plus personne ne pouvait me faire du mal. J'étais là, j'avais ma petite chambre, et j'ai peint un portrait de Gérard Mansay avec une mouette au bord de la mer. C'est le premier grand tableau que j'ai peint ici en 83. Donc Gérard Mansay m'a sauvé la vie en quelque sorte, par copine interposée. Il m'a tendu la main pour me sortir de l'abîme et la planche a tenu. Quoi.
Vous étiez à Sancy à l'époque ou c'est
Je fréquentais la fac, j'étais pas à la fac, mais Philippe, il avait des amis brésiliens, portugais, toute nationalité. On faisait des pique-niques chez ses parents à Dordive, à la campagne, et on écoutait de la bossa nova. Donc j'avais deux, trois amis à Rueil, à Sarcelles, il y avait Philippe Lavis. J'avais des amis anarchistes aussi à l'époque, un ami qui s'appelait Maud, qui faisait de la peinture. Un tout petit réseau de 2-3-4 amis. Sinon, j'étais tout seul ici, complètement seul. Et en 82-83, j'ai rencontré des amis allemands Jörg, il avait, c'était venu à pied de l'Allemagne. Il ressemblait à Van Gogh. Il vendait des boudins dessinés dans des boîtes d'allumettes sur le parvis du centre Pompidou. Et j'ai lié amitié avec Jörg. Il avait un anneau dans l'oreille. C'était une sorte de hippie allemand. On parlait d'Antonin Artaud, de surréalisme et de poésie. Et lui écrivait des romans avec une vieille machine à écrire. C'était un personnage vendersien, Jörg Janzer. Et ses copines, Ute Ratzmann. Je les ai rencontrées par hasard, si on peut dire, providentiellement, dans le quartier des Halles. Et à ce moment-là, j'ai commencé une nouvelle vie. Et on parlait de poésie, de littérature, de...
How long would it take him to get to Houston?
Je ne savais pas qu'il y avait le film de Wim Wenders. J'étais absolument pas au courant de ça.
If they were to travel, I'd say about 3 seconds.
Over, I didn't get that last part.
It would take them 3 seconds to get from California to Houston. On light speed. This is Houston?
Yep.
How are we gonna find her in a big city like this?
I know where she'll be.
Where?
A bank. She's gonna deposit some money at a certain bank today.
This is a bank? What kind of bank is this?
Looks like a drive-in.
I've never seen a bank like that.
Me neither.
There were so many cars, we'll never find her.
Oh yeah, we will. Come on, we'll split up and then we'll cover more ground, okay?
Yeah, we could use the walkie-talkies.
Hey, now you're going. I'll let you out here.
Okay.
Paris, Texas est sorti en 1983. Moi, c'est l'année où je suis sorti du fond de l'abîme. Et j'ai lié amitié avec Jörg et Ute qui m'ont ouvert un nouvel univers. On avait un copain qui s'appelait Xavier Bazot aussi, qui écrit des romans. Et c'est la poésie à ce moment-là qui a fonctionné, qui m'a aidé. Jörg, il vivait comme Van Gogh dans une mansarde dans le 18e, à Belleville. Il avait un petit mini cassette où il écoutait Animals de Pink Floyd. Et il dessinait des Bouddhas, des pyramides. Il avait été aux Indes. Il connaissait la culture indienne. Il faisait la méditation bouddhique. C'était une image de père, il avait 50 ans, il avait 20 ans plus que moi, c'était la génération de 68 en plus. C'était un hippie allemand en quelque sorte, mais branché sur le dadaïsme, le surréalisme, et Joseph Beuys, et tout l'underground allemand, la culture allemande. Et Ute, elle était photographe et elle s'occupait des relations d'amitié franco-allemande. De la glacière, l'institut d'amitié, d'échange, les auberges de jeunesse, les échanges culturels franco-allemands. Donc c'est une rencontre, quelque part, Wim Wenders était là, mais on ne le savait pas. On ne le savait pas, on parlait de tout, de rien, mais Ute, elle venait de Wuppertal. Petite ville de la région industrielle d'Allemagne, Wuppertal. Et c'est longtemps après qu'elle m'a expliqué que Wuppertal était aussi la ville de Wim Wenders, parce que le W, c'est la signature de Wenders. Et en fait, les photographies de Ute ont servi à Wim Wenders, comme les photographies de Catherine Reinhardt, les copines d'Alain, ont servi pour les films de Wim Wenders. Il a tout absorbé et tout mis dans ses films. Donc il utilisait les talents de Catherine Reinhardt, de Ute, l'histoire d'Alain ont servi à fabriquer ses films. Mais on ne le savait pas. Moi, je n'irais complètement cette histoire à l'époque.
Qui l'a découvert?
L'histoire des anges. J'ai mis 25 ans à comprendre, à trouver la vérité, l'explication de l'histoire des anges.
dans les allées des îles.
Oui.
La joie de lever la tête vers la lumière, ici au grand air. La joie de voir dans les yeux des hommes les couleurs illuminées par le soleil.
Enfin folle, enfin consciente, enfin folle, enfin plus seule, enfin folle, enfin sauvée. Enfin folle, enfin tranquille, enfin folle, enfin une lumière intérieure.
Meine Damen und Herren, das Rauchverbotszeichen ist nun für unseren Anflug auf Berlin-Tegel eingeschaltet worden. Bitte stellen Sie das Rauchen ein und rauchen Sie nicht mehr, bis Sie sich am Flughafengebäude...
Tu as entendu, on est détourné sur ta ville. Ça me rappelle un très bon souvenir. J'adore quand on est en avion et qu'on est détourné.
Tu veux que je te dessine une charrette avec du foin? J'ai imaginé un village où il y a une petite maison et il y a aussi deux étages et une petite terrasse. C'est là que tous les jours nous allons nous baigner. Et l'homme qui habite là s'appelle...
Je ne comprends pas ce personnage. C'est incroyable le peu de choses que je sais sur ce rond.
Ça, c'est l'enquête que j'ai menée en 2007 sur les films de Wenders.
Il suffira d'un bon costume et la bataille sera à moitié gagnée.
Dans le placard,
Berlin. Emile Jennings.
Toute la filmographie de Wenders.
Von Stauffenberg.
Combien votre signal?
Quel mec.
C'est un beau dessin, il plaît beaucoup.
C'était pas à Berlin?
Lui, il était poète, il écrivait principalement de la poésie. En
si grand-mère était ici, elle dirait que je partirais. Va te promener.
Il y avait un manuscrit, Tokyo, ça s'appelait Mens.
Kyoto, Paris, Londres,
une sorte de roman. Une sorte de roman expressionniste. Très étrange, très bizarre. Et voilà, on s'est connus comme ça. Quoi.